T'as vu, elles sont...
Vous disiez ?
Excellentes, pour faire des oranges pressées.
Oula ! Alors vous aussi, régalez-vous avec le filet de 2 kg d'oranges à jus à 1,99€ du 12 au 14 décembre et 10% de ticket Leclerc sur tous les fruits et légumes sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 1€ le kilo, variété Navine, origine Espagne, catégorie 1, calibre 6778. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Avec l'âge, on ne choisit pas d'avoir besoin de ses lunettes dès que c'est écrit tout petit.
Je vois rien là.
Ni de se coincer le dos en ramassant une cuillère.
Aïe.
On ne choisit pas non plus de moins voir ses collègues à la retraite et de voir la solitude s'installer peu à peu. Mais ce qu'on peut choisir, c'est de changer ça. En vous engageant dans une activité associative, culturelle ou sportive, ou en faisant du mentorat auprès d'un jeune, par exemple. Parce que le lien social est essentiel à votre bien-être. Osez vous engager. Parlons santé mentale. Plus d'informations et de conseils sur santémentale.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Qu'est-ce qui vous fait aimer Noël ? C'est vous faire offrir un vélo d'appartement en faisant mine d'être surpris alors que vous l'aviez repéré dans le garage. Cette semaine, chez Decathlon, le vélo d'appartement Domios Confort et Connecté EB900 est à moins 100€, soit 399,99€ au lieu de 499,99€.
Europe 1 Info.
13h, 14h.
Clélie Mathias.
Bonjour à tous, bienvenue dans Europe 1 Info. Je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble pour une heure jusqu'à 14h pour de l'info, du débat. On commence par le grand journal de la mi-journée. À la une, en ce jeudi 11 décembre, colère en Ariège. Le préfet a annoncé l'abattage ce jeudi d'un troupeau de plus de 200 vaches après la découverte d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse dans un élevage des Bordes-sur-Arize. Les agriculteurs ont dressé des barrages pour bloquer l'accès à la ferme. Un nouveau mort par balle sur fond de narcotrafic. Un jeune homme de 28 ans a perdu la vie. Ça s'est passé à Blois. Les informations du service police-justice d'Europe 1 dans un instant. C'est une marque française célèbre qui disparaît. Bercy a même exprimé sa profonde tristesse. Brandt nous a accompagnés dans nos vies quotidiennes, mais l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire ce matin. Plus de 700 emplois sont supprimés. Le sport, c'est bon, et pas seulement pour les muscles. C'est ce que vous dira Brigitte Millot dans sa chronique dans un quart d'heure. La tendance météo du jour, Gérald Dinamon, et le ciel est gris.
Et oui, ce sera en effet le cas sur les trois quarts du pays. Seule la Côte d'Azur et la Corse profiteront de belles éclaircies. Côté température, il fera 10 à 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 16 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 19 degrés localement sur le Pays Basque. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Direction l'Ariège pour commencer, où plus de 500 agriculteurs sont rassemblés depuis hier matin dans le village des Bordes-sur-Arize. La cause de leur mobilisation, l'abattage prévu d'un troupeau de 208 vaches pour un seul cas avéré de dermatose nodulaire. Cette maladie virale proche de la variole est non transmissible à l'homme, mais elle se propage vite chez les bêtes. Les autorités assurent que ce protocole est conforme à la loi, mais les agriculteurs ne décolèrent pas, Antoine Bienveau.
Oui, depuis hier matin, ils sont des centaines venus d'Ariège et des départements voisins rassemblés avec leurs tracteurs pour bloquer l'accès à la ferme concernée par cet abattage.
Nous, on est là pour défendre l'agriculture française. On abat la vache malade et le reste, on les laisse vivre, les animaux. Basta, il n'y a pas d'autre sujet.
Très remonté contre le gouvernement, il réclame un protocole allégé, c'est-à-dire un confinement du troupeau sans abattage, le temps de détecter d'éventuels nouveaux cas. Car selon la réglementation en vigueur, c'est tout le troupeau qui doit être abattu par mesure de sécurité. Un raisonnement absurde selon Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale à l'initiative de la mobilisation.
Le problème aujourd'hui, c'est que la ministre de l'Agriculture ne veut pas reconnaître qu'elle est en train de se tromper, ou tout de moins qu'il y a d'autres solutions existantes. Là, on a déjà une centaine d'exploitations qui ont été flinguées. Ça ne peut pas continuer, parce qu'il y a des vies en jeu, il y a des exploitations en jeu, ça bousille des familles, ça bousille des troupeaux, et on n'a pas besoin de ça dans l'agriculture avec les problèmes financiers qu'on a en ce moment.
Les agriculteurs promettent de continuer leur mobilisation aussi longtemps que nécessaire, alors que les bovins doivent être abattus dans la journée. Le préfet de l'Ariège a néanmoins prévenu qu'il ferait preuve, je cite, de fermeté avec l'envoi de CRS en cas de débordement ou de maintien du barrage.
Merci beaucoup Antoine Bienveau.
13h03 sur Europe 1, la vidéosurveillance est en pleine remise en question à Marseille.
La ville compte 2000 caméras actuellement et 500 sont en cours d'installation dans le cadre du plan Marseille en grand. Mais un rapport nous apprend que le parc de vidéosurveillance de la ville aurait peut-être été mal pensé à l'origine. 30% de ces caméras ne seraient pas utilisées au sein du centre de supervision urbaine. Pourquoi ? Bien parce qu'elles sont installées dans un endroit sans intérêt. Alors c'est pourquoi la doctrine est totalement revue pour les nouvelles installations, Stéphane Burgat.
L'installation d'une caméra de vidéosurveillance pourrait poser question ici à Bois-Luzy, quartier résidentiel calme, très recherché par les acquéreurs. Et pourtant, quand on interroge les habitants...
Ah oui, c'est utile, hein, parce qu'ils m'ont cassé deux fois la voiture, ils m'ont volé le pare-choc, ils m'ont volé le capot, ils m'ont tout volé.
Confirmation auprès de Fanny Jouot de l'agence immobilière locale FNIM.
On peut avoir des gens qui se plaignent d'avoir été victimes de cambriolage assez régulièrement, ça arrive. Oui.
Et c'est pourquoi la police est en charge maintenant du choix de ces implantations. Les politiques ne décident plus seuls, car beaucoup trop de caméras ont été mal positionnées par le passé, chiffre l'adjoint à la sécurité Yannick Oanessian.
On s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de caméras qui n'étaient jamais loguées par les forces de police. C'était l'équivalent d'à peu près 30% de ces caméras. Donc dans le plan Marseille en grand, toutes ces caméras, ce sont les forces de police qui décident là où elles sont implantées.
Mais quand les caméras sont trop bien positionnées, à l'inverse, elles peuvent être vandalisées. C'est pourquoi Romain Cimarano du collectif Une Génération pour Marseille propose d'aller plus loin.
Il y a une loi qui va être proposée, qui va permettre aux polices municipales d'utiliser des drones de sécurité. Personne n'aime avoir des drones au-dessus de la tête qui circulent et qui surveillent. Mais parce qu'on est aujourd'hui dans une situation critique, il faut prendre des décisions drastiques.
Un projet de loi qui sera étudié très prochainement au Sénat. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Un nouveau mort par balle hier sur fond de trafic de drogue.
Cette fois à Blois, probablement un règlement de compte entre narcotrafiquants, c'est en tout cas ce qu'indiquent plusieurs sources policières à Europe 1. Jean-Baptiste Marty, bonjour.
Bonjour Clélie, bonjour à tous.
La victime est un homme de 28 ans.
Oui, plusieurs hommes encagoulés lui ont tiré dessus, le touchant mortellement au niveau du rein. 30 minutes plus tôt, les auteurs des tirs avaient tenté d'abattre le frère de la victime. Ce dernier, un Guinéen, déjà condamné pour trafic de drogue, ce qui à ce stade fait que les policiers privilégient la piste du meurtre sur fond de règlement de compte. D'autant plus que la fusillade a éclaté non loin d'un point de deal dans les quartiers nord de Blois. Laurent Bras, policier et représentant départemental adjoint du syndicat Alliance, déplore.
La montée du narcotrafic, la montée de la violence, l'insécurité grandissante, etc. Donc ça, c'est comme malheureusement dans beaucoup de villes de France, quoi. Y compris dans des villes comme chez nous, où on est quand même la ville des châteaux, une ville assez tranquille, enfin qui était tranquille, on va dire, au passé, et qui ne l'est plus vraiment maintenant. Hein.
La semaine dernière, deux fusillades qui n'ont pas fait de mort ont éclaté à Castres. Des policiers avaient été visés. Les villes moyennes, aujourd'hui, ciblent des narcotrafiquants qui n'hésitent plus à s'affronter dans pleine rue pour gagner des territoires.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.
Il est 13h06. Sur Europe 1, c'est une marque française qui disparaît. Brandt nous a accompagnés dans nos vies quotidiennes, mais l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire. C'est dans la suite du journal de Clélie Mathias sur Europe 1.
13h, 14h.
Europe 1 Info.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Je suis chef d'entreprise et je passe trop de temps sur l'administratif.
Heureusement, Banque Populaire propose un service accessible depuis mon espace client pour gérer factures et notes de frais très facilement. Du coup, je commence à anticiper la réforme sur la facturation électronique et je me consacre à ce qui compte vraiment, mes clients.
Apporter des solutions innovantes, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Étude Kantar PME PMI 2025. 14 banques populaires, première banque des PME. Voir conditions générales de banque à distance et tarifaires sur banquepopulaire.fr ou dans votre agence.
Avec l'âge, on ne choisit pas d'avoir des cheveux gris, ni de s'endormir devant le film du dimanche soir. On ne choisit pas non plus de voir ses enfants devenus grands quitter la maison et de voir la solitude s'installer peu à peu. Mais ce qu'on peut choisir, c'est de changer ça. En vous engageant dans une activité associative, culturelle ou sportive, ou en faisant du mentorat auprès d'un jeune par exemple. Parce que le lien social est essentiel à votre bien-être, osez vous engager. Parlons santé mentale. Plus d'informations et de conseils sur santémentale.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Leclerc, bonjour.
Oui, j'ai vu votre promo sur le café. Je crois qu'on s'est compris.
Sûrement, mais à quel propos ?
Bah, les petits matins de décembre, il fait froid, il fait noir, et paf, moins 34% sur le café pour nous aider à sortir du lit.
Et ça marche, non ? Alors les 11 et 12 décembre chez Leclerc, venez profiter de moins 34% avec votre carte sur les cafés des marques Grand-Mère, Laure Espresso et Maxwell House.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
13h, 14h, Europe 1 Info.
La suite du journal de Clélie Mathias, 13h08 sur Europe 1 avec la politique. Rien ne va plus chez les Républicains.
Après le vote avant-hier à l'Assemblée nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale approuvé par 18 députés LR, le parti se déchire. En toile de fond, une opposition de moins en moins feutrée entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Alexandre Chauveau, le patron du parti et celui du groupe Les Républicains à l'Assemblée, ne partagent ni les mêmes intérêts, ni la même stratégie.
Oui, et leur relation plutôt fraîche jusqu'ici est devenue glaciale cette semaine, car le vote des 18 députés LR en faveur du PLFSS ne passe pas pour Bruno Retailleau, attaché à la clarté de la ligne du parti et pour qui la suspension de la réforme des retraites ne pouvait être votée par un parlementaire de droite. C'est un budget socialiste négocié entre Sébastien Lecornu et Olivier Faure, résumant proche de Retailleau. En face, Laurent Wauquiez défend un texte imparfait, certes, mais qui a le mérite d'offrir de la stabilité au pays, un moindre mal en somme, après deux années de crise gouvernementale. Réponse de Bruno Retailleau ce matin dans Le Figaro. Le chantage au chaos, ça suffit, tacle le président des Républicains. Le contentieux entre les deux hommes remonte à la dernière élection pour la présidence du parti et n'a jamais été réellement soldé depuis. À la tête des députés LR, Laurent Wauquiez cultive l'indépendance de son groupe, dont beaucoup d'élus ne se sentent pas particulièrement proches de Bruno Retailleau. La séquence brouille en tout cas une nouvelle fois l'image d'un parti qui peine depuis plusieurs années à se ranger derrière une ligne et une incarnation.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Vous avez peut-être un lave-vaisselle, un réfrigérateur ou un lave-linge de la marque Brandt chez vous.
Bien, sachez que vous n'en verrez plus en magasin. Le dernier fabricant de gros équipements électroménagers tricolores a été placé en liquidation judiciaire ce matin. Le tribunal des affaires économiques de Nanterre a rejeté le projet de reprise en société coopérative. Une décision qui met au tapis un fleuron de l'industrie française et bien sûr ses employés, Barthélémy Philippe.
Oui Clélie, c'est une terrible nouvelle pour les salariés du groupe. Ils se sont battus pour la survie de leur entreprise avec la promesse d'une aide de 20 millions d'euros de l'État et de la région Centre-Val de Loire en cas de reprise. En vain, l'équipementier domestique Brandt va supprimer 700 emplois, dont la majorité dans ses deux usines d'Orléans et de Vendôme dans le Loir-et-Cher. La frilosité des consommateurs et la fragilité du marché immobilier plombaient les ventes en baisse de 4% l'an dernier, constate Thierry Milon, directeur des études du cabinet Altares.
Il faut avoir des clients pour tirer les résultats. On est quand même sur le secteur de l'équipement du foyer sur des tensions qui sont fortes à la fois parce qu'il y a eu cette crise de l'immobilier, mais aussi parce que la clientèle arbitre très défavorablement ses dépenses, sauf à ce que l'équipement tombe en panne et qu'il faille le changer. Donc le frigo, tiens, on le conserve.
Une tendance involontairement renforcée par les pouvoirs publics avec l'aide de dispositifs tels que le bonus réparation. Les Français sont incités à conserver leurs équipements le plus longtemps possible. Un autre facteur qui a pu jouer un rôle dans la chute de Brandt.
Merci beaucoup Barthélémy Philippe.
Le manga anthropomorphisé.
L'occasion peut-être de dépasser ses préjugés et de découvrir cet art à part entière qui trouve ses origines dans le dessin japonais de la fin du 19e siècle. Direction le musée Guimet avec Sébastien Bordenave.
Manga tout un art, tout est dit. Aujourd'hui objet de consommation courante, le mot manga en France a été popularisé en 1896 par Edmond de Goncourt, auteur d'une biographie d'Okusai, le maître de l'estampe, celui à qui on doit la vague. À l'époque on dit la manga, puis fin 19e c'est le manga, il prend alors le sens de caricature, puis de récits en bande dessinée. L'exposition Manga tout un art est un pont entre l'art japonais ancien et les actuels dessinateurs de manga. Des dessins originaux d'Astro Boy sont présentés. C'est son auteur Osamu Tezuka qui a entraîné le manga dans une production industrielle de dessins animés que l'on découvrira en France durant les années Dorothée comme Goldorak, Albator et autres Capitaine Flamme. Au musée Guimet, il y a aussi des casques japonais de l'époque Edo ornés de cornes, rappelant étonnamment Goldorak. Beaucoup de samouraïs sont aussi représentés alors qu'ils disparaissent au milieu du 19e siècle. Ils resteront pourtant longtemps omniprésents dans les mangas, une façon d'offrir au pays un socle, une identité commune. Manga tout un art, toute une histoire aussi.
Voilà, Manga tout un art, c'est à voir à Paris au musée Guimet jusqu'au 9 mars prochain et chez Glénat. L'exposition, oui bien sûr, elle existe aussi en livre. La bourse, pas le livre. Avec Claire Lemaître. Bonjour Claire.
Bonjour Clélie.
Le CAC 40 en légère hausse aujourd'hui.
Oui, c'est du vert, plus 0,3% au lendemain de la décision de la réserve fédérale américaine. Pas de surprise, la Fed a baissé ses taux directeurs de 25 points de base et ça donne un peu d'élan au marché. Du côté des valeurs, on a une forte hausse à Paris pour Schneider Electric. Nouveau plan stratégique salué pour le groupe. L'action grimpe de 3%. Et puis, pas mal d'avis d'analystes qui font bouger les valeurs. BNP Paribas, Exane, dégrade Stellantis qui perd 3%. Mais à l'inverse, Pernod Ricard monte de 1,5% avec le soutien de Barclays. En Europe, Francfort est stable. Une petite hausse, plus 0,2% pour Londres. Plus 0,3% à Paris pour le CAC 40. On est à 8046 points.
Merci beaucoup Claire. La bourse sur Europe 1, c'est avec boursier.com. Géraldine Hamon, le temps. Un temps plutôt calme, mais la grisaille persiste.
Et oui, vous l'avez remarqué, hein, la grisaille qui en effet résiste sur la moitié nord du pays, avec quelques ondées qui tombent aussi sur le nord-ouest. Et cette nouvelle perturbation pluvieuse qui va aborder la pointe bretonne en fin de journée et dans la nuit. Les nuages persistent aussi sur le Languedoc-Roussillon, alors que sur le reste de la moitié sud, eh bien, le temps est plus calme, plus lumineux, grâce aux éclaircies qui arrivent à percer et qui deviennent plus nombreuses. Le vent se renforce légèrement sur les côtes de la Manche cet après-midi. Et la pointe bretonne cette nuit avec des rafales allant jusqu'à 70 km/h. Côté température, il fera 10 degrés à Boulogne-sur-Mer, 11 à Lille, 12 à Caen-la-Rochelle et Paris, 13 à Nantes et Lyon, 14 degrés à Brest, 15 à Quimper, Toulouse et Bordeaux, 16 à Nice, Marseille et Nîmes, 17 degrés à Bastia, 18 à Ajaccio, jusqu'à tout de même 19 degrés à Biarritz et Pau. Alors demain, un temps calme concernera la majeure partie du pays, avec malgré la grisaille et un peu de soleil qui persisteront au sud dans l'après-midi. Les températures restent au-dessus des normales de saison, bien qu'en baisse, 4 à 8 degrés en général le matin, 6 à 9 degrés sur le nord-ouest, et l'après-midi il fera entre 8 et 11 degrés sur le nord de l'Hexagone, jusqu'à 17 degrés dans le sud.
Et beaucoup de brouillard ce matin.
Oui, aussi, beaucoup, exactement,
ouais, très gris. La tour Eiffel avait presque disparu. Oui.
13h, 14h, Europe 1 Info.
13h15, c'est le moment d'accueillir le docteur Brigitte Millot pour la chronique santé du jour, Clélie.
Bonjour, cher docteur.
Bonjour. Mais j'apprends quoi que c'est votre anniversaire?
Bon anniversaire, merci, Clélie. Oui, oui. Un bel anniversaire entouré de tous ceux que vous aimez. Oui, et de tous ceux qui vous aiment. Ils doivent être nombreux.
J'espère. Merci, chère Brigitte. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à l'activité physique pour rester jeune. Et vous nous dites qu'au-delà de sculpter un corps, ce qui est déjà très important, ça permet d'entretenir et d'agir sur tout notre organisme.
Oui, et on peut dire que l'activité physique est un médicament simple, gratuit, sans ordonnance et pourtant sous-utilisé. Je parle d'activité physique. Aujourd'hui, je ne parle pas de sport de haut niveau ni de marathon, juste bouger. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, à la base, l'être humain n'est pas fait pour rester assis. Il est fait pour marcher, porter, courir, grimper, se baisser, se relever. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, on faisait au moins 20 km par jour en portant des charges lourdes. Et sans aller si loin, il y a quelques années encore, il y avait beaucoup de travaux manuels, on n'avait pas d'électroménager, peu ou pas de moyens de transport, et on bougeait. Mais depuis quelques années, avec l'arrivée de l'électroménager, de l'informatique, des livraisons, des voitures individuelles, et encore plus depuis l'arrivée des écrans, des smartphones, nous sommes assis en moyenne 9 heures par jour assis, que ce soit au bureau, à table, sur le canapé, dans la voiture. Et on a atteint un niveau de sédentarité jamais vu dans l'histoire humaine. On a notamment les adolescents les moins actifs de l'histoire. Or, je le rappelle, notre corps est fait pour bouger. Nous sommes biologiquement construits pour le mouvement. Donc bouger est une réinitialisation biologique. Quand vous marchez 10 minutes par jour... Encore une fois, je ne vous demande pas de faire un marathon. Marchez 10 minutes par jour, quand vous montez les escaliers, le cœur envoie le sang dans les muscles, le cerveau reçoit plus d'oxygène, les hormones du stress diminuent, les muscles libèrent des myokines, vous savez, ces toutes petites molécules anti-inflammatoires qui vont aller inonder tous nos organes. Donc ce que ça fait à l'extérieur n'est rien par rapport à ce que ça fait à l'intérieur. La glycémie aussi se stabilise, notre système immunitaire devient plus efficace, donc moins d'infections, donc bougez. Que ce soit une activité physique de loisir, marcher, courir, danser, pédaler, voire même des activités physiques domestiques, comme faire le ménage, passer l'aspirateur, bricoler, jardiner. Remettre son corps en mouvement, c'est remettre sa santé en mouvement.
Et bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup, chère Brigitte. Allez, bougez, sortez, mais prenez les écouteurs pour écouter Europe 1 quand même. C'est possible aussi. Place au débat à présent. Une droite sans unité ni clarté. Laurent Wauquiez, le dynamiteur. La fracture s'aggrave chez les Républicains. Les fractures s'aggravent chez les Républicains. Quelques-uns des titres de la presse du jour au sujet de la droite plus divisée que jamais après le vote du budget de la Sécu. On en parle dans un instant.
Et Europe 1, il est 13h18. Vous écoutez Clélie Mathias.
13h, 14h.
Europe 1 Info. Auchan.
Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher?
Eh bien, chez Auchan, pour faire des économies jusqu'à Noël, on fait le choix de prolonger les prix et promos jusqu'au 24 décembre sur les jouets de notre catalogue de Noël. Et on vous offre en plus jusqu'à dimanche 25% sur tous les jeux de société et les puzzles grâce à votre carte Wahoo.
25% cagnoté? Alors là, je dis bien joué.
Auchan, le choix, le bon.
Offre valable dans vos magasins Auchan participants et sur Auchan.fr. Hors Book Nook, conditions et listes des hyper ouverts ce dimanche toute la journée sur Auchan.fr. Boulanger.
Bon chéri, tu me donnes ton idée cadeau ?
Oh, quelque chose que je pourrais emmener partout avec moi pour penser à toi.
Oh, comme quoi ?
Un ordinateur portable ?
Ah d'accord.
C'est Noël chez Boulanger. Le PC portable Asus VivoBook, équipé d'un processeur Intel Core i7 512Go, est à 649,99€ au lieu de 799,99€. Et découvrez notre sélection de PC Windows 11 à prix magique. Boulanger, plaisir partagé. Jusqu'au 28 décembre, 3,98€ d'éco-participation. Condition boulanger.com.
Panier piano, panier piano.
Ah, plus facile à offrir qu'à dire.
Et oui, pour Noël chez Gamme Vert, on vous prépare un délicieux panier de produits du terroir. Et jusqu'à samedi chez Gamme Vert, le panier garni est à 21,99€. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Ça a commencé quand j'ai découvert Love Train Italia. 14 allers-retours Paris-Lyon, 14€, 14 décembre. Le lendemain, plus rien n'était pareil. Je me réveille à 14h et il fait 14 degrés. J'arrive au bureau, 14 mails non lus. Non mais c'est dingue.
C'est la 14 mania chez Trenitalia. Ce 14 décembre, les billets Trenitalia sont à 14€ seulement sur les 14 allers-retours Paris-Lyon. Réservation et conditions sur trenitalia.fr.
Il y a apéritif et apéritif Picard.
Pour vos apéritifs de fête, on est très en forme chez Picard. En forme de puzzle, de sapin ou même de montgolfière. Et vous, ça va la forme ?
Découvrez notre collection de plus de 100 produits apéritifs à partir de 3,70€, comme nos 10 bâtonnets panés à la mozzarella. Et pour la livraison à domicile et le click and collect, rendez-vous sur l'appli Picard ou sur picard.fr. Magasin ouvert dimanche toute la journée. Jamais pareil, toujours Picard. 300 grammes, soit 12,33€ le kilo. Voir modalité sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus.
À tous ceux qui se demandent c'est quoi le e-coupon de la semaine, et même à ceux qui se le demandent pas du tout, eh ben je vais vous le dire quand même. Bah oui, chez Intermarché, le e-coupon de la semaine, c'est 50% en avantage carte sur les shampoings, les gels douche, les soins du corps, le dentifrice, le maquillage, enfin le rayon beauté. Et c'est à activer uniquement sur l'appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 14 décembre, des 15€ d'achat et dans la limite de 35€ d'achat. Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité et exclusion sur intermarché.com.
13h, 14h, Europe 1 Info.
Avec Clélie Mathias sur Europe 1 dans un instant. Xenia Fedorova nous rejoindra, mais d'abord, vous accueillez votre chroniqueur, Jules Torres, journaliste politique au Journal du Dimanche, Clélie.
Bonjour Jules Torres.
Bonjour mesdames, bon anniversaire Clélie.
Merci, c'est très gentil, tout le monde y pense. Ça me fait très plaisir. Merci à vous. Allez, on va parler de ce dessin de cac à la une de l'opinion. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est assez cruel. Hein. Il résume, je crois, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, assez bien la situation. On y voit Bruno Retailleau en César, Laurent Wauquiez en Brutus. Brutus, arrête de jouer avec ce couteau, tu vas finir par blesser quelqu'un, lui dit Bruno Retailleau. Alors, qu'en pensez-vous au-delà de l'humour?
Comme d'habitude, CAC écrit d'or et dessine d'or. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'énième épisode de, vous savez, ce film bien connu de la droite la plus bête du monde. C'est-à-dire qu'on a une droite qui n'a jamais été aussi recroquevillée, n'a jamais eu aussi peu d'électeurs, n'a jamais eu aussi peu de parlementaires, aussi peu d'élus, et qui continue avec ses guerres picrocollines, avec ses guerres des chefs, avec ses guerres de chapeau à plumes. Et c'est évidemment très mauvais, parce que c'est un spectacle affligeant qu'on nous donne aujourd'hui.
Vous dites la droite la plus bête du monde, enfin vous dites, Guy Mollet le disait, oui, surtout. Voilà. La droite du n'importe quoi, dit Yves Tréhard dans le Figaro ce matin. Si on résume un petit peu la situation, tout s'est passé. On va dire que le paroxysme, c'était mardi lors du vote du budget, avec Bruno Retailleau qui dit « il ne faut absolument pas voter ce budget » et Laurent Wauquiez qui dit « on s'abstient, voire peut-être que s'il y a eu un ou deux pour, c'est pas très grave.
Oui,
voilà ce qu'il en est pour un peu mettre le contexte.
Et d'aucuns disent aux Républicains, dont ceux qui sont pas dans le camp de Laurent Wauquiez, qu'il a même œuvré en coulisses avec une sorte de deal avec Sébastien Lecornu pour qu'il y ait 18 députés des Républicains qui votent ce budget de la sécurité sociale. Un budget quand même, il faut le rappeler, qui entérine la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Il faut quand même se rappeler aussi que les Républicains militent depuis des années, depuis même une quinzaine d'années, pour la retraite à 64. Donc là, on revient à 63 ans, entre guillemets, puisqu'on suspend cette réforme des retraites, et voire même, Monsieur Wauquiez militait il y a quelques années pour la retraite à 65, voire 66 ans. Donc, il y a une question aussi de cohérence. Je pense que les Français, on aura le bol de ces 8 ans de macronisme. Là, ils sont arrivés au bout du macronisme finissant, et je crois que les électeurs de droite, ne comprennent pas la stratégie aujourd'hui des Républicains avec un chef qui est Bruno Retailleau. Un chef, c'est fait pour cheffer. Vous vous souvenez de la phrase de Chirac. Bon, bah là, il ne cheffe pas puisqu'il dit qu'il faut ne pas voter ce budget et on a des députés qui en font qu'à leur tête et qui le font. Souvenez-vous, c'était le cas aussi lors de l'épisode de la motion de censure. Et on a de l'autre côté Laurent Wauquiez qui navigue un petit peu à vue et qui fait, pour être simple, pour être un petit peu simpliste, tout l'inverse de ce que veut Bruno Retailleau. Bruno Retailleau est contre la primaire, Laurent Wauquiez est pour la primaire. Bruno
Retailleau est contre les budgets, Laurent Wauquiez est pour. En fait, surtout, parce qu'on sait bien que ça ne sert absolument pas les intérêts du parti en général.
Non, c'est les intérêts individuels. On voit très bien que là, c'est la préparation de la présidentielle de 2027. L'enjeu, c'est-à-dire que Laurent Wauquiez a perdu le congrès à 25% seulement contre Bruno Retailleau qui a fait 75%. Donc, il n'était plus à ce moment-là le présidentiable et donc celui qui pourrait représenter la droite en 2027. Et en réalité, ce qu'essaye de faire Laurent Wauquiez, eh bien, c'est de resserrer le match. C'est-à-dire qu'il veut se rapprocher, il veut intégrer la primaire. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, c'était sur le plateau de Sonia Mabrouk sur CNews Europe 1, Laurent Wauquiez disait que la primaire était un poison. Aujourd'hui, qui est le principal défenseur de la primaire, c'est Laurent Wauquiez.
Je vous fais écouter Cédric Perrin, qui est sénateur LR du territoire de Belfort, qui a défendu les députés LR, ceux qui ont voté pour le budget. Il était sur LCP ce matin.
On est dans une situation où, où les députés sont inquiets, n'ont pas nécessairement envie de retourner devant leurs électeurs pour le moment, et où en responsabilité certains considèrent que le vote du budget était de la sécurité sociale était une nécessité pour éviter justement ce dérapage budgétaire. Je ne suis pas certain qu'il l'ait fait par idéologie.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je suis pas tout à fait d'accord parce que le dérapage budgétaire, il est déjà là. On a 1 000 milliards de dettes en plus depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. On n'a pas voté un budget qui soit à l'équilibre depuis 1973. Donc le dérapage budgétaire, il n'a pas attendu la situation politique actuelle. Et donc c'est pour ça que les électeurs de droite, et on le voit d'ailleurs dans toutes les enquêtes d'opinion, sont extrêmement durs. Parce que l'argument de « nous votons ce budget parce que c'est la responsabilité et que nous ne voulons pas le chaos », bon, bah, le chaos, on le voit bien à l'Assemblée nationale, il est là. Ce budget, oui, il faut un budget, mais si c'est pour avoir un budget communiste ou un budget socialiste, à quoi ce budget de la sécurité sociale se rapproche davantage, bon, bah, c'est pas le rôle des députés LR. Je suis pas sûr que, d'ailleurs, sur les marchés, il faut quand même savoir que les députés des Républicains se font houspiller quand même depuis un certain nombre de semaines parce que, eh bien, ils tolèrent un budget qui s'apparente à un budget socialiste.
Un mot quand même de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public qui auditionnait hier la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Elle a défendu sa gestion de l'entreprise, la neutralité des émissions, une exigence absolue, a-t-elle dit. A-t-elle convaincu ? Ben écoutez, Charles Alonc, le député UDR, rapporteur de la commission d'enquête, il était sur Europe 1 il y a un instant au micro de Christine Kelly.
On a réalisé 6 auditions sur une cinquantaine, il y a déjà eu un certain nombre de révélations absolument confondantes. Les prises illégales d'intérêts, les pactes de corruption, les pantouflages entre certains dirigeants de France Télévisions et des sociétés de production, les mensonges et les parjures proférées en audition, tous ces faits sont passibles d'années d'emprisonnement, de dizaines voire de centaines de milliers d'euros d'amende. Je pense aussi que le parquet national financier, bien prompt à se saisir d'affaires financières, notamment lors des campagnes électorales, je pense que il suit nos débats, il fera, je l'espère, preuve d'autant de promptitude pour se saisir de ces sujets qui sont extrêmement graves, car il s'agit de détournements massifs d'argent public, sur les faits en tout cas qui ont été révélés depuis quelques jours.
Des révélations confondantes donc selon Charles Aloncle. Vous avez regardé, vous, l'audition hier,
J'ai longuement, je crois que ça a duré autour de 4 heures. Et c'était très intéressant parce qu'on voyait bien que Mme Ernotte était mise en difficulté quand même par le rapporteur Charles Aloncle, que sur les questions idéologiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un logiciel idéologique au sein de l'audiovisuel public, elle ne répondait pas, ou alors elle donnait la balle à son secrétaire général, M. Tardieu, et quand elle était gênée par une question, elle vous disait, bon, on va vous répondre à l'écrit, quelqu'un qui est auditionné peut le faire, il peut répondre à l'écrit ultérieurement quand c'est une question qui est extrêmement précise, notamment avec
qui
des chiffres.
Des recherches,
Et donc ça permet quand même d'essayer de se défausser, de ne pas répondre aux questions qui embarrassent, mais quand on voit les chiffres complètement délirants de l'audiovisuel public, le rapport de la Cour des comptes de 2024, on comprend pourquoi Mme Ernotte a voulu botter en touche.
Jules Torres, vous restez avec nous dans ce studio d'Europe 1, la suite du débat dans un instant. Le jeudi, c'est géopolitique. Il n'y a pas encore de paix entre l'Ukraine et la Russie, mais les pions bougent sur le damier. On fera le point avec vous, Jules Torres, et avec Xenia Fedorova qui va nous rejoindre.
Il est 13h28, à tout de suite avec Clélie Mathias sur Europe 1.
13h, 14h, Europe 1 Info.
Bonjour, c'est Roland Pérez.
La libre antenne de Noël.
pour la libre antenne spéciale de Noël. Notre plus beau cadeau serait que vous, auditeurs d'Europe 1, nous racontiez votre plus beau Noël ou celui que vous rêveriez de vivre. Retrouvailles, réconciliation, naissance, miracle, instant suspendu, venez témoigner. Laissez dès maintenant vos messages sur le répondeur de la libre antenne d'Europe 1.
01 80 20 39 21
ou envoyez-nous un email à libreantenne@europe1.fr.
La libre antenne de Noël.
Cette année, c'est votre histoire qui fera battre le cœur de Noël sur Europe 1.
Carrefour. Quand vous me dites un Noël sans chocolat, non mais impossible. Eh bien, c'est un Noël pour tous les goûts chez Carrefour. Alors profitez de 50% de remise immédiate sur la deuxième boîte de chocolat de Noël Champs-Élysées de Lindt achetée. Et c'est valable sur tous les coffrets Champs-Élysées de Lindt de plus de 400 grammes. Et c'est jusqu'au 21 décembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors conditionnement promotionnel, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
J'ai trouvé le cadeau parfait pour Sam.
Ah oui, c'est quoi ?
Une carte cadeau L'Équipe. Ça permet d'accéder à l'intégralité des contenus, aux articles, documentaires, podcasts ou encore à la chaîne L'Équipe Live Foot. C'est trop bien !
T'es sûr qu'il n'est pas pour toi ce cadeau ?
À Noël, fais plaisir à vos proches avec la carte cadeau L'Équipe. Des 35 euros, offrez-leur un abonnement numérique et donnez-leur accès en illimité aux articles, décryptage, analyse, enquête et contenus exclusifs. Rendez-vous sur le site et l'application L'Équipe.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Vos oranges à jus, elles sont...
Vous disiez ?
Excellentes pour faire des oranges pressées.
Oula, alors vous aussi, régalez-vous avec le filet de 2 kg d'oranges à jus à 1,99€ du 12 au 14 décembre et 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 1€ le kilo, variété Navine, origine Espagne, catégorie 1, calibre 6778. Modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Découvrez le journal d'un prisonnier, le livre événement de Nicolas Sarkozy.
J'ai vu, à l'occasion de mon incarcération, la force de ce lien charnel qui me lie avec tant de Français. Il est indestructible, parce qu'il est aujourd'hui parfaitement désintéressé. Il n'y a donc aucune arrière-pensée, aucun cynisme, juste des sentiments. Et au fond, c'est définitivement ce qui compte le plus à mes yeux.
Le journal d'un prisonnier, de Nicolas Sarkozy, aux éditions Fayard.
Europe 1. Le journal permanent.
13h30 sur Europe 1, toute l'actualité, Clélie Mathias.
La dermatose nodulaire contagieuse bovine. L'État annonce l'abattage d'un troupeau de plus de 200 vaches en Ariège. Des agriculteurs s'y opposent. Plusieurs centaines même d'agriculteurs, notamment de la coordination rurale, mais aussi de la confédération paysanne, veulent empêcher que les vaches ne soient euthanasiées. Avec des dizaines de tracteurs, de troncs d'arbres, ils bloquent les routes menant à l'exploitation. Un jeune homme tué par balle à Blois, une enquête ouverte pour meurtre. La victime est âgée de 28 ans, déjà condamnée pour des affaires de drogue, tué par balle donc hier soir dans les quartiers nord de Blois. La liquidation de Brand prononcée, un choc pour les salariés, 700 emplois supprimés. Bercy exprime sa profonde tristesse après la liquidation d'un fleuron français. La guerre en Ukraine, une proposition sur les concessions territoriales soumises à Trump, selon Friedrich Merz. Une proposition formulée par le chancelier allemand après l'échange par téléphone entre le président américain et ses homologues allemands, anglais et français hier. Donald Trump s'est montré impatient en disant avoir eu des mots assez forts lors de cet entretien. Israël réaffirme que le Hamas sera désarmé au lendemain de la proposition d'un dirigeant du mouvement terroriste islamiste de geler l'armement du Hamas en échange d'une trêve durable à Gaza. Le gouvernement israélien réagit ce matin et déclare que le groupe terroriste sera désarmé et Gaza démilitarisé. Le Nobel de la paix, Maria Corina Machado, déclare qu'elle fera tout en son pouvoir pour rentrer au Venezuela où elle compte poursuivre sa lutte contre la tyrannie. Arrivée dans la nuit, trop tard pour recevoir son Nobel en personne, l'opposante vénézuélienne fait sa première apparition et prise de parole publique depuis près d'un an.
13h, 14h, Europe 1 Info.
La suite à 13h32 sur Europe 1 avec vos deux chroniqueurs, Clélie Mathias, le journaliste politique au journal du dimanche, Jules Torres, et vous a rejoint au studio la journaliste et chroniqueuse sur CNews, Xenia Fedorova. Bonjour Xenia Fedorova, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Malgré les... On va parler donc de tout ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et notamment des différents plans de paix. Je dis différents parce qu'il y a plusieurs esquisses à chaque fois. On va y venir. Mais malgré ces discussions, malgré ces plans de paix qui circulent, la guerre, elle se poursuit. La Russie a indiqué aujourd'hui avoir abattu dans la nuit 287 drones ukrainiens, soit l'une des attaques les plus massives de l'armée de Kiev en bientôt 4 ans d'offensive. Alors certains ont été, bien sûr, interceptés. Que pouvez-vous nous en dire ?
Mais vous savez, moi, j'ai vu le chiffre 365. Donc,
nous n'avons pas les mêmes alors.
En tous les cas, c'est beaucoup. Il y a des troncs qui. Oui, il y a des troncs qui sont abattus chaque nuit. Pour être très honnête avec vous, c'est juste que c'est.
D'un côté comme de l'autre, hein, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Mais aussi, normalement, ici en France, on attend beaucoup sur les drones qui sont envoyés à l'Ukraine. Mais en fait, jamais sur les drones ukrainiens qui sont envoyés à Russie. Donc, ça arrive des deux côtés, comme vous avez dit. Parfaitement. Et oui, ça montre que je pense que Vladimir Zelensky essayait de montrer à tout le monde que c'est pas fini pour l'Ukraine, que l'Ukraine a encore les moyens d'attaquer, mais la réalité est qu'il n'y a pas vraiment de grands dégâts et que tous ces drones ont été abattus par le système anti-aérien russe. En tous les cas, je pense que c'est inévitable aujourd'hui, comme il n'y a pas un cessez-le-feu, que ça va se reproduire jusqu'à il y a un moment où peut-être on va signer un accord de paix. Mais on n'est pas encore là. Et,
donc, en attendant, ça continue.
Je pense que ça va continuer, absolument.
Écoutez, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qui a réaffirmé que la Russie ne souhaitait pas attaquer l'Europe. C'était ce matin.
Nous ne nourrissons, et le président Poutine l'a dit très clairement, aucun plan agressif à l'égard ni des membres de l'OTAN, ni des membres de l'Union européenne. Et nous sommes prêts à le confirmer par écrit, de manière juridique, dans un document pour consigner les garanties sur une base collective et mutuelle.
Voilà, Sergueï Lavrov qui souhaite qu'un ensemble de documents soit adopté donc pour concrétiser un accord de paix durable et à long terme en Ukraine, avec des garanties de sécurité donc pour toutes les parties concernées. C'est ce sur quoi il a insisté, Jules Torres.
Non, mais là, on voit très bien. Quelles sont les tactiques et les stratégies qui sont opérées des deux côtés. On a Volodymyr Zelensky qui, en effet, au sol, est en situation délicate sur l'aspect interne, où on sait qu'il a été éclaboussé par plusieurs scandales de corruption ces dernières semaines, que son directeur de cabinet a démissionné, qu'il y a la question des élections qui refait surface. Ça, c'est l'interne. Sur l'externe, on voit très bien que la coalition des volontaires patine, que le processus de paix est plutôt le plan de Miami d'ailleurs, était entre les Américains et les Russes, sans les Européens et surtout sans les Ukrainiens. Donc on voit très bien que lui essaye de montrer qu'il a encore des ressources. C'est pour cela qu'il envoie autant de drones, pour aussi montrer que le sujet, c'est pas seulement les oblasts dans l'Est et le Sud-Est de l'Ukraine, mais c'est aussi à Moscou, que la guerre, elle est aussi à Moscou. C'est ça qu'il veut opérer, évidemment, avec cette stratégie-là. Et puis de l'autre côté, on a l'état-major russe, et notamment Sergueï Lavrov, qui se pose, eh bien, en personne raisonnable, finalement, en disant, bon, ne vous inquiétez pas, nous n'attaquerons aucun pays de l'OTAN, nous n'attaquerons aucun pays de l'Union européenne. On peut l'écrire. Donc c'est vrai que quand on regarde les deux stratégies, on voit très bien ce qui ressort.
Mmh. Oui, alors pour rappeler aussi, il y a eu une proposition concernant des concessions territoriales ukrainiennes dans le cadre d'un plan, donc toujours pareil, mais cette fois-ci du côté européen. Et il y a une nouvelle réunion qui de la coalition des volontaires, donc France, Allemagne, Angleterre et Ukraine, aujourd'hui, mais par visioconférence cette fois. Un mot sur ce qu'a dit Sergueï Lavrov, Xenia Fedorova.
Oui, Sergueï Lavrov répète ce qui était déjà dit par Vladimir Poutine aussi. Et en fait, c'est un contraste, comme Jules vous avez tout à fait bien résumé, un contraste avec ces deux stratégies. D'un côté, vous avez l'Europe qui dessine la Russie comme une menace existentielle qui va absolument attaquer l'Europe dans quelques années, si pas moins. Après, il y a aussi qui jamais en fait voulu et dit qu'il va attaquer l'Europe. Ils sont prêts de signer. Je pense que c'est évident que la communication est en marche. Je pense que pour l'Union européenne, pour les dirigeants européens, certains dirigeants européens, c'est absolument important de continuer de dessiner la Russie comme ennemi, parce que ça leur permet de réarmer, renforcer les budgets militaires. Ça permet
et plusieurs... cela dit, là, dans ce nouveau plan, il y a des concessions territoriales ukrainiennes. Hein, donc il y a des efforts qui sont faits du côté européen aussi.
Bah, je ne sais pas quel effort, c'est juste...
Pour l'instant, on n'a pas les précisions. Hein,
oui, je pense que finalement, ils vont finir par accepter la réalité des terrains. C'est ça, en fait, ce que je vois aujourd'hui. Ce n'est pas comme Vladimir Zelensky a beaucoup de choix. Il a eu des choix en 2022 à Istanbul, quand il a eu encore la possibilité de signer un accord de paix sans laisser ses territoires sous le contrôle russe.
C'était beaucoup plus favorable à l'Ukraine, alors ?
Ah, bien sûr, parce que Donbass peut rester autonome, encore partie ukrainienne, mais en autonomie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je pense que ce qu'ils sont en train de prétendre, c'est qu'il a encore les cartes dans les mains, mais comme Donald Trump a dit, il n'en a pas. Et c'est évident pour Donald Trump aussi. Et c'est pour ça qu'elle met la pression. Elle n'est pas très contente avec la façon comment l'Union européenne continue de soutenir Zelensky pour lui donner une idée qu'il peut tenir encore plusieurs années. On peut parler des financements. Et ils sont en train d'essayer de trouver un moyen d'utiliser les avoirs russes pour financer cette guerre. Mais la vérité, c'est qu'on voit ces deux stratégies. Continuer à soutenir Zelensky, continuer cette guerre et arrêter cette guerre, trouver un accord de paix durable. Et ça se vient étonnamment de la part de la Russie et de les États-Unis.
Oui, mais aussi, regardez, l'Allemagne qui a dit dans ce plan, il y avait trois objectifs. Un, cessez-le-feu, des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine et une solution négociée préservant les intérêts sécuritaires européens. Mm-hmm. Est-ce que c'est si objectable pour la Russie, pour Moscou?
Alors, la garantie de sécurité, c'est quelque chose que la Russie comprend très bien. En tous les cas, ce qu'on attend de la Russie, qu'ils sont prêts de discuter la sécurité de garantir pour l'Ukraine, pour l'Europe. Après, les cessez-le-feu, il y a des questions sur ces sujets, parce que ce que Zelensky a cherché depuis un moment avec les Européens, c'est on sait c'est le faux qui finalement va permettre à Zelensky d'un peu gagner le temps, réarmer son armée, avoir encore plus désarmement, et c'est exactement ce que la Russie ne veut pas, parce que c'était déjà le cas pendant ces années de guerre. Et donc je pense que la Russie va objecter on cessez le feu sans rien, en revanche un accord de paix durable, oui. Donc il y a aussi une question des casques bleus. Par exemple, la Russie ne voit pas le soldat depuis de l'OTAN sur les territoires ukrainiens parce que ça sera considéré comme les cibles légitimes pour la Russie. Donc il y a des questions, absolument il y a des points où ils ne sont pas encore d'accord, et c'est un peu ça vient un peu de tout sens, cette information. Par exemple, les 28 points, les 27 points, les 20 points, est-ce qu'on sait...
On en a combien maintenant?
Oui, on ne sait pas exactement, ouais. Mais ce qu'on sait, ils sont partagés en quatre parties, cette plan d'épée, et ils sont en train de discuter chaque partie séparément.
Oui, mais c'est ce qui se fait à peu près dans toute négociation, d'ailleurs.
Non, mais de paix. Jules Torres. Ce qui est intéressant aussi, moi, je trouve, dans cette séquence, c'est la manière dont Donald Trump gère tout ça. C'est-à-dire que c'est quand même...
Alors, venons à Donald Trump.
Je ne sais pas, c'est vous.
Allez-y.
mais c'est-à-dire que... on voit très bien la manière qu'il a de faire de la diplomatie extrêmement robuste, extrêmement dure, en voulant un accord rapide. Le problème, c'est que ça peut se faire, en effet, au détriment soit des intérêts ukrainiens à l'instant T, soit aux bonnes relations et finalement à l'ordre du monde. Parce qu'on voit très bien que s'il souhaite aussi l'arrêt de cette guerre, c'est parce qu'il veut qu'il y ait la paix en Europe, qu'il veut se reconcentrer sur la question de la Chine, où il veut mener une vraie guerre commerciale pour éviter qu'il y ait encore des excédents commerciaux, enfin des déficits commerciaux, pardon. Donc on voit très bien que ce sujet-là dépasse même la seule guerre en Ukraine. Et en réalité, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il avait envoyé M. Witkoff pour aussi faire plutôt des affaires, qui est lui plutôt un businessman et pas seulement un diplomate. Donc ça va être très intéressant de voir dans les prochaines semaines la manière dont Donald Trump va s'investir dans cette résolution et possiblement ce plan de paix.
Alors il s'est entretenu avec les dirigeants européens hier. Il a affirmé avoir eu des mots assez forts avec eux. Écoutez Donald Trump.
Nous avons discuté avec les dirigeants français, allemands et britanniques, tous d'excellents dirigeants et de très bons amis à moi. Nous avons discuté de l'Ukraine avec des mots assez forts. Nous verrons bien ce qui se passera. Nous attendons leurs réponses.
Alors, les mots assez forts, on ose les imaginer venant de Donald Trump. Il a également dit, il a également prévenu que les États-Unis ne voulaient pas perdre leur temps. Enfin, son temps, en l'occurrence, hein, le temps, qu'ils ne voulaient pas perdre son temps. Zaïa Fedorova.
Oui, je pense que c'est le message que si ils ne vont pas réussir de trouver un moyen de signer un accord de paix, c'est tout à fait possible que les États-Unis vont se retirer de ce processus. Et dans ces cas, l'Europe va se trouver en face toute seule vis-à-vis de la Russie, sans vraiment avoir les armements à envoyer. Donc, ils seront obligés de continuer de acheter les armements. Et les États-Unis peuvent aussi limiter leur participation dans ces conflits. Et dans ces cas, ça sera une situation compliquée.
Mais on peut comprendre quand même que les Européens veuillent exister.
Personne menace les Européens. Il faut pas oublier qu'ils...
Non, mais qu'ils aient voix au chapitre, au moins dans ces négociations.
Oui, bien sûr, mais je pense qu'où on se trompe, en fait, ce que l'Europe veut en négociation, parce que l'Europe va perdre la face s'il y a un accord de paix. Si on regarde le montant des moyens qui étaient envoyés à l'Ukraine pour un seul objectif, d'affaiblir la Russie. Souvenez-vous, mettre l'économie russe à genoux, les sanctions qui ne marchaient pas finalement, et avoir une défaite stratégique de la Russie. Si aujourd'hui on a un accord de paix qui, en plus, était poussé par les États-Unis, l'Europe se trouve un peu... Mais c'était pour rien, en fait, tout ça. Le père des tirés du roi, tous ces argents... Tous ces morts. Donc je pense, et c'est la seule raison pourquoi je pense qu'ils sont en train de continuer, c'est qu'ils ont encore un espoir qu'ils peuvent renverser la situation militairement sur les terrains.
Et oui, mais quand même, les Européens ont y gagné, si c'est un plan qui garantit une certaine sécurité.
Et je suis d'accord avec vous, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut se poser les questions. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut Ursula von der Leyen et l'Union européenne?
Allez, on reste ensemble, on continue notre débat. Et si la paix en Ukraine était rendue possible avec l'organisation d'élections en Ukraine, Volodymyr Zelensky se dit prêt à une présidentielle. On en parle avec vous, Jules Torres, Xenia Fedorova, dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h44 sur Europe 1. Et juste avant la suite d'Europe 1 Info, je vous rappelle que dès lundi, oui, ce 15 décembre, eh bien, le grand jeu, le plus beau Noël d'Europe 1 revient sur votre radio préférée. Vous l'attendiez, il revient toute la journée. Vous pouvez écouter Europe 1 et jouer pour vos proches, iPhone, enceinte connectée ou encore voyage de rêve. Jouer et gagner pour eux les plus beaux cadeaux, comme Karima qui avait joué l'année dernière dans Culture Média. Écoutez.
Et vous voulez jouer pour qui, Karima?
Alors, je joue, Anissa, pour mon fils qui a réussi son bac avec mention très bien.
Waouh!
On va offrir un très beau cadeau, je pense, ce matin à votre fils.
Un MacBook.
C'est génial. Alors vous aussi,
pour participer
au jouer le plus beau Noël d'Europe 1 comme Karima l'année dernière, inscrivez-vous et dès maintenant vous envoyez Noël au 739-21. Noël au 739-21, c'est 3 fois 75 centimes jusqu'au du SMS. Bonne chance.
Boulanger.
Non mais c'est un truc de dingue ce casque.
Ouais, et quand t'appuies là, hop, réduction de bruit.
Ah, je veux ça pour Noël. Je m'entends même plus chanter. What it is, da, li,
li, li. Bah t'as de la chance.
Vivez la magie de Noël avec Boulanger. Le casque Beats Studio Pro avec réduction de bruit active est au prix exceptionnel de 199,99€. Et profitez du service satisfait ou remboursé jusqu'au 31 janvier. Boulanger, plaisir partagé jusqu'au 28 décembre. 1,03€ d'éco-participation, conditions boulanger.com.
On vous ramène.
Petite astuce pour les fêtes, offrez vos anciens cadeaux.
Waouh, la magie de Noël quoi. Non, sinon tu vas chez Conforama. Ta carte Confo Plus te donne moins 25% sur tous les produits Roventa, Moulinex, Tefal, Krups, Seb, Calor. Et même sur ceux qui sont déjà en promo. Ça, c'est cadeau. Offre valable du 11 au 14 décembre. Conditions et liste des magasins ouverts ce dimanche sur Conforama.fr.
Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge.
Cette semaine dans Challenge, spécial école de commerce. Un guide complet pour se repérer dans les filières post-prépa, admission parallèle ou bachelor. Avec les critères de sélection, les frais de scolarité et les salaires des jeunes diplômés. Retrouvez dans Challenge le grand classement des écoles de commerce.
13h, 14h, Europe 1 Info.
Dernière partie à 13h46 sur Europe 1. Vous écoutez Kelly Mathias et ses deux chroniqueurs du jour, Xenia Fedorova et Jules Torres. Kelly. Merci de nous écouter. D'ailleurs, sur Europe 1, vous êtes de plus en plus nombreux à être avec nous tous les jours. Merci pour votre fidélité. Et cette question, donc, si la paix en Ukraine était rendue possible avec l'organisation d'élections, écoutez Volodymyr Zelensky.
Je demande que les députés de notre faction, en principe nos parlementaires, préparent des propositions concernant la possibilité de modifier les bases législatives et la loi sur les élections pendant la loi martiale. Préparez-moi cela, je serai en Ukraine demain, j'attends des propositions de la part de nos partenaires, j'attends des propositions de la part de nos députés et je suis prêt à avancer avec les élections.
On l'a dit, hein, Volodymyr Zelensky qui est très fragilisé ces derniers temps, peut-être trop d'ailleurs pour négocier une paix. Ce serait ça le problème?
Moi, je pense que évidemment qu'il est très fragilisé par les scandales de corruption, mais après, mon avis, c'est qu'il ne cherche pas vraiment à avoir les élections, parce que s'il y a des élections sur place, il y a une très petite chance qu'il va gagner. En plus, il est en train de dire qu'il est prêt, Mais je pense que c'est que communication, parce que au début il a dit on a besoin de 60-90 jours. Aujourd'hui la tête de comité d'élection ukrainien dit ils ont besoin 6 mois. Et je pense encore une fois c'est une façon de gagner, continuer à gagner le temps.
Aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est quand même un pays en guerre, et que organiser des élections démocratiques dans un pays en guerre avec une partie de la population qui n'est pas là.
Que c'était exactement le cas pour Vladimir Zelensky en 2019 quand il était élu. Il y a eu une opération militaire contre Donbass sur place. Les régions de Donbass ne sont pas votées. Lugansk et Donetsk n'est pas participé. Ces millions de citoyens ukrainiens à l'époque. Il a quand même gagné les élections et en fait, il a demandé les élections parlementaires anticipées. Et depuis, il n'a pas eu les élections selon les lois martiales, je pense que c'est comme ça s'appelle. Et son mandat est fini en 2024. Donc, de sens, par exemple, pour la Russie, c'est quelqu'un qui n'est pas légitime aujourd'hui de signer un accord de paix. C'est un autre problème, on en parlait à l'époque. Et c'est pour ça peut-être aussi que Donald Trump, à plusieurs reprises, a précisé que les élections en Ukraine sont très importantes.
Je pense que pour ces Donald Trump met la pression sur Volodymyr Zelensky. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky souhaite que l'Amérique, il a dit, ou l'Europe encadre ces élections si donc il y a des élections prochainement.
Jules Thomas. Non, mais c'est vrai que toute la question est de savoir si Volodymyr Zelensky a intérêt à avoir des élections. On sait que par exemple son taux d'approbation est moins fort aujourd'hui que chez les Ukrainiens évidemment, est moins fort aujourd'hui qu'en 2022, que aujourd'hui s'il n'y avait pas en effet le soutien des Européens et des Américains, on voit mal comment ces élections pourraient être organisées. Lui dit qu'il pourrait le faire entre 60 et 90 jours, mais par contre il faut plusieurs faits. Il faut d'abord un financement qui donc serait américain ou européen. Il faudrait une protection des bureaux de vote, évidemment, parce que c'est un pays en guerre. Il conditionne aussi à la participation des soldats ou même des déplacés. Donc, à organiser, c'est pas une élection législative en France. C'est pas juste une dissolution comme nous, on a connu. Donc, ça nécessite quand même, encore une fois, beaucoup d'argent, beaucoup pas de stratégie, mais d'anticipation pour faire une élection présidentielle qui soit conforme et qui soit faite dans la règle de l'art. Et c'est vrai que les conditions aujourd'hui n'ont pas l'air, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'elles soient réunies.
Alors, parmi les potentiels candidats, on parle d'un ex-chef d'état-major, Valéry Zaloujny, aujourd'hui ambassadeur au Royaume-Uni. Est-ce que ça pourrait être une alternative crédible aux yeux des Russes, Xenia Fedorova?
Oh, ça, je ne sais pas vraiment, parce que je n'ai rien vu du côté des médias russes sur ces sujets particuliers. Je sais que c'est un candidat tout à fait possible, avec beaucoup de soutien parmi les Ukrainiens. Et je pense qu'il a aussi le soutien des certains occidentaux. C'est-à-dire que...
Et des Américains?
Des Américains, peut-être. En tous les cas, il ne faut pas oublier que les Américains sont toujours choisis qui sera à la tête de l'Ukraine depuis très longtemps. On peut parler d'élections démocratiques, mais avant, les échanges qui étaient fuités avec Victoria Nuland, qui a parlé et donné les noms qui sera bien pour diriger l'Ukraine, on sait très bien que l'ingérence est toujours présente. Donc je pense que le candidat qui sera après Zelensky doit absolument être validé par les Américains, les États-Unis et probablement aussi le Royaume-Uni, comme c'est un ambassadeur qui est basé à Londres aujourd'hui. Je pense qu'il le prépare. Zelensky, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il était utile pour le monde occidental. Et aujourd'hui, il n'est plus utile à cause de cette scandale de corruption, et je pense qu'il sera absolument changé. Et pour juste faire une fois sur les élections, vous avez raison, mais ça sera pas le premier pays qui fait une élection dans les conditions compliquées.
Et je pense que
bien sûr on a vu ça, et même un pays avec un conflit en cours, mais je pense que son demande de garantir la sécurité pendant les élections, c'est aussi un moyen d'essayer d'attirer les forces européennes sur les terrains, ce qui est exactement le ligne rouge pour la Russie.
Oui, Jules Torres.
Sur Zaloujny, mais c'est intéressant parce qu'en préparant l'émission, j'ai un petit peu regardé les sondages, et notamment il y a un sondage qui a été publié par le Kiev indépendant, qui est le grand journal ukrainien, et qui dit que pour l'instant, dans les intentions de vote, Volodymyr Zelensky est autour de 20%, donc c'est quand même pas énorme, et qu'il est talonné de très près à 19% par Zaloujny. Donc on voit très bien que dans l'opinion ukrainienne, Volodymyr Zelensky est encore une sorte de figure de résistance, celui qui lutte contre l'envahisseur entre guillemets russe, et monsieur, mais par contre, on voit bien que son avenir politique est perçu oui. comme extrêmement incertain, parce qu'évidemment, on est bientôt à 4 années de guerre. Il est évidemment, il a une image qui est aujourd'hui écornée. On a parlé des scandales de corruption, et c'est évidemment très difficile aussi, eh bien, de rebondir après un tel événement.
Donc on verra si ces élections auront eu lieu. Il nous reste quelques minutes. Je voulais aussi qu'on revienne à autre sujet. Évidemment, on reparlera de l'Ukraine et la Russie. Mais avant cela, c'est une première. Hein. L'ONG Amnesty International, que vous connaissez tous, incrimine cette fois directement le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés le 7 octobre. Voilà un nouveau rapport qui est paru ces derniers jours. Jules Torres.
Bah oui, mais c'est, j'ai envie de vous dire que de temps perdu. C'est-à-dire qu'il a fallu 2 ans pour que Amnesty International, qui a beaucoup été critiqué hein, après le 7 octobre 2023, mette les mots sur ce que tout le monde a vu eh bien, le 7 octobre 2023 et les jours qui ont suivi même, c'est-à-dire un pogrom, un crime de guerre, des atrocités, moi par exemple...
Notamment commises envers les civils, hein, il y a toute une partie
notamment
là-dessus.
Notamment envers les civils, notamment envers les femmes. Moi je peux vous dire que je suis encore marqué de cette vidéo des attaques du 7 octobre que moi j'avais vu quand j'étais allé en Israël, qui dure 40 minutes et c'est toutes les, vous savez, les terroristes du 7 octobre avaient des caméras GoPro et donc ils ont quasiment tout filmé, toutes leurs exactions et il y avait des horreurs, donc encore heureux qu'Amnesty International, 2 ans plus tard, reconnaissent voilà, ce que tout le monde s'accorde à dire sur ce 7 octobre. Oui, c'est un pogrom et des crimes de guerre, bien sûr.
Donc c'est bien, mais c'est un peu tard.
C'est un peu tard, mais c'est toujours le problème avec des associations. Amnesty International a fait de grandes choses, évidemment, ces dernières années, mais qui sont extrêmement politisées, qui sont extrêmement idéologiques. Et on voit très bien que donc Amnesty International porte une vision qui est très à gauche, qui est anticapitaliste, qui est anti-impérialiste. Et donc, à ce titre-là, bah, Israël est sans doute le pays qu'il considère comme le plus capitaliste, le plus impérialiste, et l'un de ceux qui ne respectent pas leur doctrine à eux et leur ligne idéologique. Donc, c'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a eu un retard à l'allumage et qu'on a eu du mal, et qu'ils ont eu du mal à mettre ces mots-là, sur quelque chose qui ne devrait souffrir d'aucun débat. C'est ce qu'on a vu le 7 octobre. Oui, c'était des crimes de guerre.
Qu'est-ce que ça peut changer sur place, ce rapport ?
Bah, déjà, on a un cessez-le-feu qui est extrêmement fragile, avec le Hamas qui, encore une fois, dès le jour du cessez-le-feu, a recommencé à faire souffrir son peuple, à faire des exactions sans aucun procès. Hein. Évidemment, on accusait certaines familles, il y a une grande famille notamment de Gaza, de la bande de Gaza, qui a été complètement trucidée dans sa quasi-globalité parce qu'elle a été accusée par les dirigeants du Hamas d'avoir collaboré avec l'occupant israélien. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, j'ai pas l'impression que le Hamas ait renoncé à ses intentions, à ses velléités bellicistes. Le Hamas ne rendra pas les armes. Le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. Le Hamas veut la mort des Juifs. C'est aussi ça la réalité. C'est pour ça que le retard à l'allumage d'Amnesty International est, je trouve, extrêmement étonnant. Donc, il arrive à un bon moment. Mais je ne sais pas ce que ça va changer parce qu'encore une fois, le Hamas a des soutiens dans la région. On sait qu'ils sont financés par le Qatar aussi. Le Qatar qui ne compte pas abandonner son soutien au Hamas. Donc encore une fois, il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais est-ce que les coalitions internationales le souhaitent et permettent à Israël de le faire ? Ça, c'est une autre question.
Xenia Fedorova.
Moi, pour moi, Amnesty International, c'est pas une organisation crédible, pour être très honnête avec vous. Les deux points de mesure qu'on voit, pas seulement sur les questions des Hamas, Israël, etc., mais en général, je pense qu'ils sont très menés par une idéologie, mais aussi souvent par les politiques. Mm-hmm. Et je me pose la question, en fait, si on regarde presque tout, les organisations non commerciales.
Les ONG.
Les ONG, pardon.
Non, c'est pas en anglais. Oui, c'est pour ça que je le remettais en français.
Merci beaucoup. c'est gentil. Non, en fait, on a un problème avec ces genres d'organisations. Et si on regarde, par exemple, ceux qui sont sponsorisés par Soros, il y a toujours un agenda, une idéologie derrière des politiques. Et il faut qu'on parle de ces sujets parce que avant, un rapport d'Amnesty International, c'était quelque chose hyper légitime, importante, qui fait le bruit aujourd'hui, personne ne les croit. Et je pense que oui, cette manque de crédibilité, c'est un grand problème. Parce qu'il n'y a plus d'organisations qui font leur job, en fait.
Je le dresse, vous voulez rajouter
oui, non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu, notamment dans la bouche d'élus en France, que le 7 octobre était un acte de résistance, que le Hamas était un mouvement de résistance, que finalement, ce qui s'était passé le 7 octobre 2023 était un acte légitime. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'à ce titre-là, on attend, et je suis un peu d'accord avec Xenia sur le côté on n'a plus confiance en réalité en Amnesty International parce que, elles n'ont pas dit des choses qui étaient qu'on pouvait dire dès le 8 octobre et qu'ils le disent le
11 décembre.
Le 11 décembre.
Merci beaucoup à vous, Jules Torres et Xenia Fedorova, d'avoir participé à ce débat. Europe 1 Info, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain dès 13h et tout de suite un peu de musique pour passer l'après-midi. Omblin Roche vous accompagne jusqu'à 15h avec les enfants d'Europe 1. Très bon après-midi à vous tous.
À demain, Clélie. C'était Clélie Mathias et encore un joyeux anniversaire sur Europe.
Merci.
T'as choisi ?
Je crois que je vais y aller.
Ça va pas ?
Je me sens vraiment fatiguée. J'ai de la fièvre, des douleurs thoraciques, j'ai du mal à respirer.
Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils peuvent être dus à une pneumonie à pneumocoque, une infection respiratoire d'origine bactérienne aux conséquences parfois graves. Chaque année, elle touche des milliers de patients à risque. Pourtant, c'est une maladie que l'on peut prévenir par la vaccination et les gestes barrières. Vous êtes peut-être à risque. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
Avec l'âge, on ne choisit pas d'avoir besoin de ses lunettes dès que c'est écrit tout petit.
Je vois rien, là.
Ni de se coincer le dos en ramassant une cuillère.
Aïe.
On ne choisit pas non plus de moins voir ses collègues à la retraite et de voir la solitude s'installer peu à peu. Mais ce qu'on peut choisir, c'est de changer ça. En vous engageant dans une activité associative, culturelle ou sportive, ou en faisant du mentorat auprès d'un jeune, par exemple. Parce que le lien social est essentiel à votre bien-être. Osez vous engager. Parlons santé mentale. Plus d'informations et de conseils sur santémentale.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Cher Père Noël, cette année, j'aimerais voler au-dessus de Métropolis, survivre dans un monde post-apocalyptique et